RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.
Votre podcast After Galaxy est de retour. Ça fait plaisir de vous retrouver, de lire vos commentaires, vos messages, vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez, vous devez même vous abonner sur votre appli au podcast After Galaxy pour ne pas manquer les prochains épisodes, pour écouter les précédents également. C'est très important et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, on va se faire un Galaxy à la sauce Europa League parce que l'OM va jouer sa qualif pour les huitièmes de finale face à l'Ajax. L'OM ne doit pas perdre et l'Ajax, lui, doit gagner. Un Ajax qui pique une crise historique qu'on va essayer de comprendre, d'analyser, d'expliquer. On part pour Amsterdam avec du son maison, Seven Alex. On est avec Jurriaan van Wessem, correspondant néerlandais qui est basé à Monaco. Salut Jurriaan, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous.
Eh bien écoute, tu es le bienvenu Jurriaan, merci d'être là. Et on est avec notre drôle de dame, Johan Crochet, grand connaisseur de l'Eredivisie notamment également. Salut Jo.
Salut à tous.
Alors Marseille joue donc sa qualif en 8e d'Europa League face à un Ajax qui réalise l'un des pires débuts de saison de son histoire. Les Ajaxides sont 13e d'Eredivisie sur 16 équipes avec 3 points d'avance sur la zone rouge. Alors pour votre culture générale, le pire classement de l'histoire de l'Ajax, c'est justement une 13e place. C'était au cours de la saison 1964-1965 et cette année-là, ils avaient encaissé un 9-4 face au Feyenoord.
Senneker, krijgt er ondertussen niet genoeg van. Zijn vierde, Feyenoord 7. En angstig ondergaat Ajax de overmacht. Bij Feyenoord biedt iedereen zich aan. Haak, Groot. Het is weer Bouwmeester. Hij maakt het af. Scorebord kan deze last nauwelijks tillen, maar er moeten er nog 2 bij. Aan iedere kant 1, waarvan de laatste er weer 1 voor Fenneker is.
Voilà, l'Eredivisie, 18 équipes cette saison bien sûr. Ce 9-4 pris par l'Ajax en 64-65 est la plus lourde défaite de l'histoire du club. Jurriaan, est-ce qu'aux Pays-Bas, on se dit que la saison actuelle peut être aussi la pire de l'histoire de l'Ajax ou pas ?
Jusqu'à maintenant, on peut dire ça, oui. Cette saison est la pire de l'Ajax, au moins dans l'époque moderne, disons ça. Parce qu'il y a aussi une grande crise institutionnelle, on va parler de ça aussi, mais c'est surtout sportif, parce qu'ils ont eu 8 matchs de suite sans gagner, et ça, c'est impensable pour le public néerlandais. Mais je ne pense pas qu'il y a le risque d'une relégation, mais ce serait très dur encore pour Ajax par championnat se qualifier pour une Coupe d'Europe, parce que l'équipe est totalement poussif dans le match, même les derniers temps, quand on a amélioré un peu plus au vu des résultats, mais le jeu n'est pas là et il y a beaucoup de critiques à Amsterdam.
Alors cette fameuse saison 64-65 est donc celle de la plus grosse crise de l'histoire de l'Ajax jusqu'ici. Elle a vu naître un homme qui va révolutionner l'histoire de l'Ajax et pas seulement d'ailleurs, Jurriaan.
Non, c'est curieux, dans le sens qu'en 64, moi j'avais 3 ans, alors je n'ai pas de mémoire de ça, mais je me souviens qu'il y avait une grande crise à Ajax, et là, il est arrivé aux crises plus profondes du club. Le joueur, le joyau de l'équipe des jeunes, un certain garçon de 17 ans, Johan Cruyff, et tout a changé. Après son rentrée, que c'est cette semaine, 59 ans, qu'il a fait ses débuts. Et c'est même au jeu de cette semaine qu'il a fait ses premiers buts dans un match contre PSV, qui était à cette époque-là le tenant de titre du championnat hollandais.
Alors Johan, toi qui suis et l'équipe de l'Ajax et aussi les catégories jeunes, c'est qui le potentiel Johan Cruyff 2.0 là, dans cette équipe, dans ce club ?
Là aujourd'hui, en tant que joueur, j'en vois pas, parce qu'en fait, c'est toujours un peu le danger, tu sais, avec les légendes iconiques, c'est que on essaye toujours de rapprocher des jeunes footballeurs de ces légendes-là, en disant peut-être que lui peut parvenir à ce niveau-là, mais en fait, sincèrement, je pense que personne ne pourra être le Cruyff 2.0 en tant que joueur, parce que ça s'inscrit aussi dans un contexte et en fait, Cruyff a été tellement important à un moment compliqué de l'Ajax. Il a amené l'Ajax au sommet, à des sommets que malheureusement, pour notre vision du football à nous, bah, on aura du mal à retrouver. Donc, un Cruyff joueur compliqué, un Cruyff d'influence, on va dire, en tant qu'entraîneur ou en tant que conseiller, on pourra peut-être retrouver un personnage de ce type-là, mais joueur, ça me paraît impossible.
Alors, Jurjan, les Ajax, on est à jouer le maintien en Eredivisie, hein, en championnat néerlandais. Ils doivent s'imposer pour ne pas être éliminés en Coupe d'Europe. Est-ce que l'Europe, justement, reste une priorité pour l'Ajax compte tenu de la situation qui est la sienne en championnat ?
Oui, mais après les deux défaites contre Brighton, la situation est très compliquée. Bien sûr, pour rester en Europa League, il faut qu'il gagne à Marseille, comme Ajax a déjà fait deux fois dans l'histoire du foot européen, avec en 72 avec le grand équipe de Cruyff, et bien sûr aussi en 88. Quand le star d'Ajax était un certain John Van Schip, en Coupe des Coupes. Mais ces deux victoires au Vélodrome donnent peut-être historiquement un peu d'espoir. Je pense qu'il faut surtout penser à se qualifier pour la Conference League, que c'est presque une honte pour Ajax de jouer la Conference League. C'est même que Van der Sar, il y a deux ans, a déclaré « Quand on joue la Conference League, je ne serai plus là. » Alors, c'est la vérité parce qu'il n'est plus là. Mais c'est une possibilité pour Ajax de gagner la seule Coupe d'Europe qui n'est pas encore sur son palmarès. Et ce serait la sixième Coupe européenne ou internationale qu'Ajax peut gagner. Alors, peut-être, cette jeu, on pourrait le jouer pour gagner la Conference League. Mais maintenant, c'est vraiment pour se qualifier. Et ça, c'est de faire un bon résultat au Vélodrome et gagner les derniers matchs contre AEK Athènes.
Johan, c'est plutôt une bonne nouvelle ce que dit Jurjan finalement. C'est vrai que l'Ajax peut devenir le premier club d'Europe à remporter toutes les Coupes d'Europe, mais ça voudrait dire qu'ils sont reversés en Conference League. Donc en gros, c'est plutôt priorité championnat et peut-être Conference League pour l'instant.
En fait, quand tu es à l'Ajax et que tu portes le maillot, tu représentes ce club, tu ne peux pas choisir en fait. Il y a souvent ce discours quand une saison est un peu mal embarquée, alors la priorité, ça doit être le championnat ou ça doit être la Coupe d'Europe. En fait, quand tu es à l'Ajax, tu n'as pas le droit de choisir. Tu représentes l'excellence, donc tu ne t'abaisses pas à choisir quasiment. C'est pour eux, ça serait une honte de devoir choisir entre la Coupe d'Europe et le championnat. Donc tu joues tout à fond. Tu dois jouer le championnat à fond parce que, comme le disait Jurjan, bah, pour se qualifier directement, alors en Ligue des Champions, déjà directement, ça va être très compliqué. Pour essayer d'accrocher une autre Coupe d'Europe, c'est encore faisable, mais il va falloir mettre vraiment le turbo. Et ensuite, déjà, jouer l'Europa League dernièrement, c'est un peu un déclassement limite pour eux par rapport à ce qu'ils ont connu. Mais être éliminé dès la phase de groupe d'Europa League, c'est vraiment un gros déclassement. Donc au moins la Conference League, c'est vraiment le minimum du minimum du minimum, parce que ça te permettra au moins de continuer à parler de Coupe d'Europe dans ta saison. Et c'est pas rien, parce que tu as des supporters qui sont très exigeants aussi, tu as des joueurs qui sont exigeants, tu as recruté aussi en nombre pour avoir un effectif très important pour tout jouer. Donc imagine que tu n'as plus rien à jouer, qu'est-ce que tu vas faire de tous ces joueurs-là en fait? C'est compliqué, donc évidemment que cette Coupe d'Europe est une priorité, mais elle ne le sera pas moins ou pas plus que le championnat.
Alors on aime cristallise les tensions, les manquements de l'Ajax de cette saison. Cet homme, c'est Sven Mislintat. En avril dernier, cet Allemand de 50 ans, passé par Dortmund, Arsenal ou Stuttgart, était nommé directeur sportif de l'Ajax, mais quelques mois plus tard seulement, en septembre exactement.
Ajax beëindigt per direct de samenwerking met technisch directeur Sven Mislintat. Dat heeft de club gisteravond bekendgemaakt, enkele uren na de ontluisterende wedstrijd tegen Feyenoord, die bij een 0-3 achterstand gestaakt werd.
Voilà, vous avez compris, hein, bien sûr. Hein. L'Ajax qui annonce mettre fin à sa collaboration avec Mislintat. Et il ne s'agit pas, mon cher Jurjan, que d'une question de résultats sportifs. Ce n'est pas que pour ça qu'il est parti, le directeur sportif allemand.
Oui, mais disons que ça a bien aidé de le virer, les résultats. Parce que si Ajax serait leader en septembre, au premier match contre Olympique Marseille, on n'aurait pas discuté tout ça. Mais parce que les résultats n'étaient pas là, et surtout les achats, c'était terrible, on a dû voir qu'il y avait des choses pas claires sur certains transferts qu'Ajax doit maintenant rechercher. Qu'est-ce que s'est passé avec de l'argent qui est passé par certains agents qui étaient amis de Mislintat. Et c'est pour ça qu'il est mis hors du cadre. Il n'est pas viré pour cette chose, mais il est mis hors de cadre parce qu'il y a certains contrats. Et il ne faut pas oublier que Ajax, comme club, est coté sur la bourse d'Amsterdam. Alors, il y a certaines choses financières à régler pour clarifier qu'est-ce qui s'est passé sur ce type de transfert. Mais les résultats ne l'ont pas aidé. Et il faut dire qu'il était arrivé comme un dieu. Dans un certain moment, il avait un pouvoir incroyable pour le club d'Ajax. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient des années et des décennies chez Ajax et ils n'avaient pas compris pourquoi on a donné tellement de pouvoir à cet Allemand qui ne connaît pas la culture d'Ajax. C'était ça la critique qu'on a sentie à l'Arena. Mais il est parti après 4 mois. Un peu comme l'entraîneur, et ça veut dire qu'ils ont essayé de révolutionner et la révolution n'a pas tenu pour 3 mois. Et ça, c'est horrible. Et ça, c'est la raison aussi que l'Ajax n'a pas démarré la saison très bien.
Oui, il y a une histoire aussi de conflit d'intérêts avec une boîte de data dans laquelle il a départ. Mais Johan, le cas Mislintat, il traduit quoi de cet Ajax selon toi, pour toi ?
Alors pour moi, il y a deux choses. La première, c'est le vide institutionnel. C'est ce que disait Jurian. Comment on a pu donner tous les pouvoirs à Mislintat qui n'a aucune culture de l'Ajax ? Pour moi, c'est aberrant de prendre une telle décision et de le laisser totalement agir comme il le souhaitait sur le mercato sans quasiment aucun droit de regard. Et la deuxième chose, qui est peut-être même encore plus gênante parce que ça ne se résout pas en faisant partir quelqu'un, c'est le manque d'anticipation. Et l'Ajax a toujours brillé par son sens de l'anticipation, par son organisation. Ça peut être sur la formation des joueurs, sur la formation des coachs, sur la manière de jouer au football, sur la programmation sportive. En gros, avant, on savait très bien que quand un joueur exceptionnel avait émergé, on savait très bien qu'il allait quitter le nid. On savait quand on allait le vendre, on savait à peu près pour combien on allait le vendre et on avait déjà le remplaçant en main. Soit c'était quelqu'un de l'académie, parce que tu avais quelqu'un de l'académie qui était très très fort, soit tu avais déjà choisi sur le mercato qui allait pouvoir remplacer ce joueur-là. Mais en fait, sur cet été et même la saison d'avant, parce que moi j'inclus aussi la saison d'avant, ce qui est assez navrant, je trouve, c'est que tu vends les atouts majeur, et ça c'est normal, ça a toujours existé depuis très longtemps maintenant, et ça c'est l'évolution du football européen, c'est pas simplement l'Ajax, mais tu sais très bien que tu dois vendre tes meilleurs joueurs parce qu'ils vont aller chercher la gloire, la fortune et un niveau plus élevé, plus exigeant encore ailleurs dans les grands championnats européens. Mais derrière, t'es pas bien organisé, t'as pas anticipé, et donc tu fais toute une sorte de panic buy. Et le panic buy, pour moi, c'est dans la définition de l'Ajax, ça ne devrait pas exister. Il y a une phrase de Johan Cruyff, moi qui un des principes de Cruyff. Il faut savoir que c'est des choses qui tournent en boucle à Amsterdam. Et il y a même une boutique liée à Cruyff, gérée par la fondation Cruyff, avec ses principes mis sur des t-shirts. C'est vraiment quelque chose de très fort. Et il y a un des principes qui est, tu ne recrutes pas quelqu'un qui n'apporte pas quelque chose de fondamentalement plus fort que ce que tu formes. En d'autres termes, si tu décides de recruter quelqu'un, c'est qu'il va amener une plus-value sportive nettement supérieure au joueur qui est formé à ce poste-là. Et je suis désolé, moi, quand l'Ajax recrute Lucas Ocampos, j'ai rien contre le joueur, mais c'est pas normal. Ce joueur-là n'a pas les codes, n'a pas le style de l'Ajax. Et encore, ça aurait pu être pire, parce que ça, c'était l'été 2022, et heureusement que le conseil de surveillance de l'Ajax est entré en conflit avec le pouvoir sportif, parce que le pouvoir sportif a décidé de le recruter définitivement pour 20 millions d'euros. Et le conseil de surveillance avait dit non, on peut pas, on n'autorise pas un tel transfert. Et donc ils avaient fini par le faire en prêt. Ça avait été tellement un échec qu'au bout de 6 mois, ils avaient cassé le prêt. Donc voilà, c'est ce sens de l'anticipation, cette organisation-là, cette rigueur. Aujourd'hui, il y a des vides.
Ouais. Et ben justement, tu parlais de mercato. On va regarder de plus près le boulot réalisé par Mislintat, hein, notamment sur le mercato, qui est l'un des éléments pouvant expliquer la crise actuelle de l'Ajax. L'été dernier, les dirigeants du club néerlandais ont été très actifs sur le marché des transferts et ils ont notamment vendu leur meilleur buteur.
Tahirovic. Naar Kudus. Oh, goede aanname. Kudus, goede goal van Mohamed Kudus. En een fijne assist van Benjamin Tahirovic. De toch wel bevrijdende goal voor Ajax. Kudus mag dus ook en doet het fraai. En waarom wil hij zo graag? Dat gaan we nu zien.
Kudus, Alvarez vrij, Kudus en dan kan hij Brobbey laten scoren, maar doet hij het uiteindelijk toch zelf. als de bal via de kluts weer voor zijn voeten valt en is het 7-0.
Voilà, Kudus, hein, 18 buts la saison dernière, qui a été vendu à West Ham pour plus de 40 millions d'euros. Edson Alvarez aussi a rejoint les Hammers. Timber est parti à Arsenal. Si on rajoute Tadic, l'Ajax a perdu les trois joueurs les plus utilisés la saison dernière et donc celui qui marquait le plus de buts. Jurian, est-ce que ces départs ont pesé, selon toi, dans la crise actuelle de l'Ajax?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il faut faire encore un pas en arrière et pour expliquer un peu la situation. On va parler encore de Overmars, mais le départ de Ten Hag pour Manchester United avait déjà vidé la sélection d'Ajax pour beaucoup d'argent. Anthony et Lisandro sont partis avec Ten Hag vers United. Il y avait aussi le Français Camerounais Haller qui est parti pour Borussia Dortmund après une bonne saison en Champions League. Et après, Ajax a voulu remplacer tous les joueurs, mais il y avait aussi un problème avec un entraîneur, Alfred Schreuder, et avec le successeur de Overmars, que c'était Klaas-Jan Huntelaar. Et ça n'a pas marché parce que, OK, il y a de mauvais achats, on peut penser à ça, par exemple Bessek ou Bergwijn, c'était très, très bien investi, mais ils n'avaient pas les résultats qu'on aurait pensé. Et ils n'ont pas gagné le titre, le championnat de Pays-Bas. Alors là, il y avait déjà une petite rupture. Et durant la saison dernière, c'est Mislintat qui est arrivé en avril, et avec son entraîneur Stein, et ils ont acheté des joueurs, comme on dit en Amsterdam, qui n'ont pas vraiment le niveau de jouer chez Ajax. Et je parle, par exemple, de Mitatats, le joueur de Metz. Est-ce que c'est un attaquant qui peut remplacer Kudus? Et on dit, bah, bien sûr, il pourrait faire quelques buts, mais ce n'est pas un Kudus. Il y avait le problème de Brobby qui est vendu à Leipzig, qui est revenu de Leipzig pour plus d'argent. Et après, il n'est pas le vrai attaquant qu'on voulait chez Ajax. Et certains joueurs n'ont pas réussi. Ocampos, bien sûr, c'est un joueur ça ne remplace pas bien. Et maintenant, il faut dire que Mislintat a investi 110 millions d'euros pour 11 joueurs. Ce n'est pas mauvais pour le prix. Mais est-ce qu'ils ont tout le niveau d'Ajax de remplacer une équipe qui normalement devait jouer la Ligue des Champions? Alors, il y a Choupa Akpom, il y a maintenant, qui maintenant on peut se montrer. Soutalo, que ce n'est pas un mauvais joueur, défenseur revenu de Dynamo de Zagreb. Et surtout, il y a un Danois, Gaye, qui est venu de Viborg. Et on n'a pas compris vraiment pourquoi on l'a acheté. Il a fait un grand bourde durant le match Ajax-Feyenoord, que c'est un peu, bien sûr, PSV, PSG, Olympique Marseille. Alors, dans ce type de match, rater le match complètement, il est remplacé après 40 minutes, ce Danois. Et il faut voir l'évolution, mais c'est sans Mislintat que ce type de joueur, surtout parce qu'il y avait aussi un conflit avec l'entraîneur Stein, qu'Ajax a beaucoup eu de problèmes pour monter son jeu, pour arriver à de bons résultats. Et c'est pour ça que cette crise est arrivée avec, mais on peut dire, beaucoup de panique autour de l'équipe et surtout autour du terrain d'Ajax. Et il n'y a plus de joueurs, de jeunes de la formation. Mais typiquement, ça c'est aussi les Pays-Bas, Ato, c'est un défenseur qui est venu dans l'équipe, il a 17 ans. Il était même avec l'équipe nationale la semaine dernière avec Ronald Koeman. Ça veut dire qu'il y a des talents, mais pas de grands talents. Ouais. Et c'est ça le problème.
Alors justement, on a parlé des nombreux départs. Il y a eu aussi beaucoup de recrutements. Tu en as cité déjà quelques-uns, Jurian. Plus de 100 millions d'euros investis rien que cet été au total. Et donc, 5 recrues à plus de 10 millions d'euros quand même. On a Soutalo, tu l'as cité, qui était au Dynamo Zagreb. Miko Tadze, qui était à Nice. Forbes à Man City. Avila à Antwerp. Akpom à Middlesbrough. Johan, est-ce que tu parlerais d'erreurs de casting ou il faut leur laisser le temps quand même? Il y a aussi des jeunes joueurs là-dedans.
Oui, oui, moi je suis toujours pour laisser du temps aux joueurs parce que honnêtement, dans cette liste-là, il y a des bons joueurs. Je pense à Soutalo par exemple, qui avec le Dynamo Zagreb a montré vraiment de très belles choses. Je pense à Forbes de Man City, moi je l'ai vu en Youth League, c'est vraiment un ailier explosif qui a beaucoup de talent. Avila de Landvert, honnêtement, je l'avais vu à Argentino Junior, c'est quand même un joueur, un latéral qui a beaucoup de qualité. Mais là encore, on revient à ce mercato. Tu as fait à Villa, pour, de mémoire, c'est 7 ou 8 millions d'euros. À la fin du mercato, tu vas chercher un deuxième latéral gauche où tu remets encore 7 ou 8 millions d'euros. Je veux dire, il n'y a aucune logique dans la politique de recrutement ces dernières années, et pas simplement cet été, mais déjà l'été dernier. Mikotadze, pour moi, c'est le symbole. Mikotadze, Jurian parlait tout à l'heure du conflit entre Stein, l'entraîneur, qui était l'entraîneur, et Miss Lintat. En gros, Stein expliquait, à qui voulait bien entendre, que Miss Lintat recrutait pour lui et pas vraiment pour l'Ajax, et qu'il n'était pas d'accord avec certains recrutements et que lui, ça ne lui servait pas pour sa construction d'équipe. Mais Mikotadze, c'est symbolique. Mikotadze, c'est Miss Lintat qui décide de le recruter, et à l'Ajax, il y a des gens qui appellent en France pour savoir quel type de joueur est Mikotadze, parce qu'ils ne le connaissent pas, tout simplement. Donc, voilà, il y a eu cet été des choses totalement anormales dans le fait de conduire une politique sportive, une politique de recrutement cohérente. Et donc, on le voit parce qu'on parlait des cadres, mais il y a un truc qui n'a pas été assez dit en dehors des Pays-Bas, parce qu'aux Pays-Bas, on en a beaucoup parlé. Mais quand vous avez votre capitaine emblématique, qui est très identifié à l'Ajax depuis qu'il y a signé, qui vient et vous explique... Je ne crois plus dans le projet de l'Ajax qui a trop changé, je veux partir.
C'est Tadic, hein, qui
effectivement. C'est Dusan Tadic, ouais, ouais, qui est à Fenerbahçe aujourd'hui.
C'est vrai que ça avait fait beaucoup parler, hein, cette histoire aux Pays-Bas, le départ pour le Fenerbahçe.
C'est,
hein,
ouais, incroyable que votre capitaine vienne vous dire que le projet a trop changé et qu'il n'y croit plus, en fait. Ouais. Et pour moi, ça a été le premier signal d'alarme.
Alors, Miss Lintat, hein, est aussi celui qui avait choisi Maurice Stein au poste d'entraîneur l'été dernier. Stein, 50 ans, qui débarquait alors du Sparta Rotterdam après avoir coaché le NAC Breda, VVV Venlo, Wado Denar. Et Miss Lintat ne tarissait pas d'éloges à son égard à l'époque.
So I was searching for a manager that showed up, who overperformed already in his stages. I think he's more than 20 years now in different environment of professional football. And more or less with all teams, he overperformed the expectations, first of all. And secondly, I think it's very important to get also a personal kind of personality into our environment that is able to create a real team spirit, a fighting environment. And in all his teams, I saw this.
Il a surperformé partout où il est passé. Il est important d'avoir une personnalité capable de gérer un esprit d'équipe et combatif, disait alors le directeur sportif de l'Ajax sur son entraîneur. Alors, au terme de 13 rencontres, Stein ne comptait que 13 succès et il a été viré. Alors, c'est facile à dire aujourd'hui, Jurian, mais est-ce que finalement le fiasco Stein n'était pas prévisible finalement à l'Ajax ?
Moi, je l'ai dit, oui, mais bien sûr, c'est plus facile de le dire maintenant. J'étais surpris quand ils ont pris, parce qu'un club comme Ajax, il faut aussi avoir un entraîneur d'un plus grand niveau. Et ça me souvenait qu'il y avait, dans les années 79, il y avait un certain Léo Beenhakker qui était jeune, qui avait des bluffs et qui est arrivé chez Ajax. Il a monté l'équipe vers une demi-finale d'ancien Coupe d'Europe des champions. Mais on voyait que peut-être Stein pourrait jouer ce rôle-là. Mais moi, je connais Stein aussi par une défaite quand il était entraîneur de Venlo, 13-0 contre Ajax. Alors, oui, bien sûr, il a très bien fait son boulot chez Sparta, il faut le dire ça, et c'est peut-être pour ça qu'il est embauché par Miss Lintat. C'était plus surprenant qu'il y avait un homme sur le marché qui voulait rentrer chez Ajax, mais vraiment rentrer. Il est très connu en France, bien sûr, c'est Peter Bosz, qui venait de Lyon, il était libre, il a dit dans deux émissions télé populaires aux Pays-Bas qu'il voulait rentrer à Ajax parce qu'il était avec Ajax quand ils ont joué la finale de Europa League en 2017. Mais il était refusé. On n'a pas compris pourquoi, mais ils ont refusé Bosz, qui est venu chez Eindhoven et maintenant à PSV, il fait tout. Il fait vraiment tous les résultats de PSV. Ils sont aussi au jeu qu'on veut voir avec Peter Bosz. C'est ça le un côté. Et l'autre, c'est que Stein n'était pas vraiment populaire à Amsterdam. C'est toujours difficile quand un mec de La Haye arrive à Amsterdam et tout le monde a déjà des problèmes sur lui. Alors, dans les émissions télévision hollandais, il y avait beaucoup de critiques sur son personnage, pas sur la manière où il faisait jouer ses équipes, mais surtout son personnage. Et peut-être il a coupé toutes les lignes avec son équipe quand il a dit « Ah oui, il y a deux achats qui sont très bons, mais les autres, je veux bien voir s'ils peuvent tenir le niveau d'Ajax. » Alors, les autres achats et son vide joueur avaient bien compris qu'il ne comptait pas sur eux. Et ça, c'est une faute d'un entraîneur, bien sûr, pour une équipe.
C'est vrai qu'Yohann, quand on remet tout ça bout à bout, là, ce que nous raconte Yohann sur le Kastein, on se dit que c'était mort d'avance, quoi. C'était cuit d'avance.
Oui, il y a aussi cette histoire de... Yohann parlait de Peter Bosch, et évidemment, ça paraissait le choix tellement logique à faire, en fait, que ça en est même dingue en y repensant aujourd'hui que ce ne fut pas le choix, d'ailleurs, de Miss Lintat. Il y a eu aussi Knudsen de Bodø/Glimt qui a été approché. Il y a aussi Hjulmand de la sélection danoise. Donc Stein arrivait un peu en bout de liste. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Yohann. Sans cette saison au Sparta Rotterdam, c'est clair que jamais de la vie, Stein n'aurait pu espérer entraîner l'Ajax. Mais évidemment qu'il a plein de responsabilités dans le mauvais début de saison. On a parlé de Miss Lintat, on a parlé de Stein. Donc c'est déjà collectif. On va parler des joueurs, de l'organisation. Donc ce n'est pas simplement le pauvre Stein. Je rappelle aussi que la saison dernière, elle n'a pas été bonne à l'Ajax et que ce n'était pas Stein l'entraîneur. Troisième place en Eredivisie, seulement 20 matchs gagnés sur 34, ce qui est quand même un taux extrêmement faible quand on s'appelle l'Ajax. Il y avait eu 7 matchs consécutifs sans victoire à l'automne. Aucune victoire contre Feyenoord, PSV, AZ et Twente, donc le top 5 en championnat. Il y avait eu un changement d'entraîneur, défaite en Supercoupe des Pays-Bas contre le PSV, défaite en finale de la Coupe contre le PSV. Éliminé de la Ligue des Champions en ayant pris un 6-1 à domicile contre Naples, reversé en Europa League mais éliminé directement en barrage, donc ça faisait l'équivalent des 16e de finale contre l'Union Berlin. Enfin voilà, on n'est pas non plus sur un Stein qui a cassé une machine qui roulait parfaitement. On a simplement un Stein qui a poursuivi cette espèce d'agonie ou de lente descente de l'Ajax.
Alors, Stein parti en octobre dernier. Il y a eu un court intérim de Maduro. C'est John Van Chip qui a été nommé entraîneur de l'Ajax. Alors, il a 59 ans. Il a été sélectionneur de la Grèce. Il a coaché en Australie, au Mexique. Et puis, il connaît bien l'Ajax. Il y a été longtemps joueur. Il a aussi entraîné les jeunes. Est-ce que Yohann, il y a une volonté? Parce que tu le disais, c'est vrai que Stein, c'était pas un gars d'Amsterdam. C'était pas un ancien de l'Ajax. Est-ce qu'il y a une volonté de la part des dirigeants de renouer avec le label Ajax finalement?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et maintenant, avec Van Chip, il a deux choses qui sont très importantes. Il est un joueur d'Ajax, mais il est surtout un élève de Cruyff. Et parce que il a joué dans l'équipe des jeunes dans les années 80 avec Cruyff encore joueur. Et c'était lui souvent le remplaçant de Cruyff dans les dernières 10 minutes. Et ils se connaissaient bien et c'était même le préféré de Cruyff ensemble avec Van Basten. Alors peut-être il est le meilleur élève chez Ajax, hors Guardiola, mais chez Ajax. Alors c'est bien qu'il prend ce boulot, mais seulement pour finir l'année. Parce qu'ils vont chercher un vrai entraîneur de haut niveau, je pense, pour l'année prochaine. Ça, Van Chip a accepté. Mais il y a bien sûr une volonté de renouer avec les personnalités qui ont fait Ajax. Et il faut dire que, comme j'ai dit, il y avait déjà des incidents l'année dernière, comme Yohann a aussi dit. En février, ils ont mis comme président un certain Pierre Heringa, que personne ne connaît hors des Pays-Bas. Mais ce jour-là, j'avais le plaisir d'être avec Michael Van Praag dans une émission de foot. Et Michael m'a dit, mais il faut penser que Pierre Heringa va sauver l'Ajax. Mais il n'a pas sauvé Ajax. Il a mis dans la trouille que se trouve Ajax maintenant. Et c'est Michael Van Praag qui est revenu chez Ajax. Il a porté avec lui Louis van Gaal et Danny Blind. En 1995, ils étaient le président, l'entraîneur et le capitaine de l'Ajax qui a gagné la Ligue des Champions. Alors, ça veut dire que ces trois-là peuvent donner un peu de tranquillité au niveau de diriger le club. C'est Van Schip qui peut donner un peu de tranquillité sur le jeu. Et c'est maintenant qu'il faut vraiment penser à un nouvel chapitre pour Ajax, pour un certain futur dans les années à venir, parce qu'il ne veut pas rater l'entrée, disons, de la nouvelle Ligue des Champions qui est plus lucrative.
Johan, est-ce qu'on sent déjà du changement avec Van Schip en termes de jeu? Par exemple, Jurrien le disait, c'est un disciple de Cruyff lui aussi.
Non, c'est trop tôt, parce que bien sûr que sur le plan des résultats, il y a deux victoires et un match nul, mais... Moi, j'ai vu les trois matchs, donc déjà les adversaires étaient assez modestes, hein, Volendam et Almere, c'est deux équipes qui vont lutter pour ne pas descendre, et le 4-1 contre finalement Herenveen est très bien payé, parce qu'à un moment du match, on n'est pas loin du tout du 2-2, ou même plus, on va dire, pour Herenveen. Donc bon, ce qui est certain, c'est qu'il a fait le fameux choix fort, des choix forts quand il est arrivé. Je pense quand il met Ariani Marta, formé à l'Ajax, arrière-gauche, où ils avaient déjà quand même recruté deux joueurs à plus de 8 millions d'euros cet été, c'est quand même un choix très important. Quand il installe Christian Linsson, qui avait déjà joué un petit peu sous Stein, l'Islandais, en numéro 10, lors des deux premiers matchs, après il l'a mis en 8. C'est aussi un choix fort parce que c'est quelqu'un qui vient de Young Ajax et qui n'a pas une expérience incroyable. Il a tenté de relancer Miko Tadze contre Almere et c'était pas génial. Donc il tente des choses. Je pense que sur l'ADN, ça va mieux coller à l'Ajax. Est-ce qu'il va vraiment avoir suffisamment de tranquillité pour bien bosser? Et puis finalement, est-ce que c'est ce qu'on va lui demander? Là, j'ai l'impression que surtout ce qu'on va lui demander, c'est de sauver les meubles. Et donc, on va beaucoup regarder les résultats. Et puis, si c'est un peu moins convaincant dans le jeu cette année, bah, on sait que vu comme c'est très mal embarqué, bah, on acceptera que ça soit un petit peu moins bon. Mais on espère surtout que les résultats s'améliorent avant même de parler du jeu.
Alors, Jurrien y faisait référence hein, il y a quelques instants. Depuis quelques semaines, il y a un autre ancien qui est de retour à l'Ajax, c'est Louis Van Gaal. Hein, il est là en tant que conseiller externe. Alors, il y a souvent eu deux écoles, hein, deux modèles en opposition au sein de l'Ajax, les Cruyffistes et les Van Gaalistes, hein, on va dire plus pragmatiques, même si j'aime pas trop ce terme-là. Est-ce ouais. que Jurrien, ça existe toujours ça, aujourd'hui, il y a un compromis finalement, il faut sauver les meubles, comme disait Johan il y a un instant?
Oui, je pense que c'est ça, sauver les meubles maintenant et pas faire de conflits internes. Et parce que Johan Cruyff n'a plus envie, il n'y a pas de problème que sa figure peut entrer à l'aréna pour faire des irritations aux autres. C'était surtout un peu ça, hein, que si Cruyff était sur la tribune, c'était toujours pour dire quelque chose qui n'était pas agréable pour Van Gaal.
Et puis ses éditos dans De Telegraaf, Jurrien aussi, hein, qui étaient très piquants et très durs aussi parfois avec les entraîneurs.
Oui, surtout ça. Mais si vous me permettez de donner un joli exemple, dans les années 90, Cruyff a dit, jusqu'après que Auxerre a éliminé Ajax de Van Gaal, Cruyff a dit il y a deux équipes qui sont formidables en Europe, ce sont Auxerre et Parma. Et ce sont les deux équipes qui ont battu Van Gaal chez Ajax. Et Ajax gagnait la Ligue des Champions, on ne pourrait pas dire. Mais ça, c'était typiquement Cruyff, hein, controverse contre le public. Et ça n'a pas aidé la situation chez Ajax. Mais parce que Cruyff est pour nous vraiment un saint. Il n'y a pas de même qui n'a pas aimé vraiment Cruyff. Maintenant qu'il est mort, il est pour tout le monde. Oui, c'était Cruyff. Et moi, par exemple, je me sens vraiment privilégié de l'avoir interviewé, Johan, quand il est entraîneur d'Ajax et de Barcelone, parce que je peux dire, j'ai fait 2 heures, 3 heures d'interview avec Cruyff. Ça veut dire que pour nous, il est là. Van Gaal, c'est plutôt normal et il est en vie. Mais maintenant, si Van Gaal dit quelque chose, tout le monde l'écoute, même les Cruyffistes.
C'est intéressant ce que dit Jurrien. Il y a vraiment aujourd'hui une volonté de remettre le club à l'endroit, finalement, quel que soit son camp, entre guillemets.
Oui, mais c'est l'urgence claire et définie. Et c'est pour ça que je disais, on s'attachera peut-être un peu moins à regarder en profondeur le jeu qui est produit cette saison devant la tâche claire et difficile hein, de remonter autant de positions au classement, d'aligner un petit peu les objectifs qui étaient prévus en début de saison. de pas finir quatrième de la phase de groupe d'Europa League. Et c'est vrai que maintenant que Cruyff n'est plus là, il y a moins cette opposition. Elle peut exister encore un peu. Il y a évidemment des entraîneurs qui sont plus défensifs, d'autres plus offensifs. Par exemple, Kees Van Wanderen, qui est l'entraîneur d'Herenveen et qui a été à Go Ahead Eagles, est un entraîneur plus défensif, par exemple. C'est un bon entraîneur, mais c'est un entraîneur plus défensif. Tu en as d'autres qui sont plus offensifs, plus dans la lignée de Cruyff. Mais c'est vrai que maintenant que Cruyff n'est plus là pour mettre la pression, pour faire des feedbacks sur les entraîneurs, pour les critiquer très durement parfois, parce que Cruyff est un saint, c'est clair, et c'est un personnage très important, mais il avait aussi ce côté très dur, parfois même brutal, avec ceux qui n'étaient pas de son camp. Donc il y a évidemment encore des restes de cette opposition, mais on en fait beaucoup moins que par le passé. Et là, clairement, l'urgence de l'Ajax, ce n'est pas de se dire est-ce que l'entraîneur est un disciple ou un proche de Cruyff ou pas. L'urgence, c'est de se dire est-ce que lui va être capable d'amener cette remontée au classement.
Alors, la très récente crise institutionnelle incarnée par Sven Mislintat, le directeur sportif, n'est pas sans rappeler le très médiatique cas Marc Overmars.
Directeur voetbalzaken Marc Overmars vertrekt per direct bij Ajax. De reden is dat hij gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten heeft verstuurd aan meerdere vrouwelijke collega's. Dat meldt Ajax zojuist.
Voilà, en février 2022, hein, l'ancien joueur de l'Ajax quittait ses fonctions de directeur sportif qu'il occupait depuis 10 ans, accusé de harcèlement sexuel vis-à-vis de certaines collaboratrices. Jurrien, est-ce que cette affaire Overmars a finalement eu des conséquences plus importantes que ce qu'on pouvait imaginer à l'époque ?
Oui, non, l'affaire Overmars a brûlé les clubs de l'intérieur et c'est tout ça. On peut même dire que cette crise sportive maintenant, c'est totalement lié avec cette affaire d'Overmars. Et c'est difficile d'ignorer parce que son départ a mis la fin de l'époque de Erik ten Hag, qui est parti pour Manchester United. Et on ne sait pas s'il était resté, si Overmars était resté chez Ajax. Mais durant les deux années de suite, Ajax a deux fois essayé de relancer le club. Première fois avec Klaas-Jan Huntelaar et Alfred Schreuder, et maintenant avec Mislintat et Stein. Alors, c'est vraiment une crise. Il faut dire, tout le monde rigole aux Pays-Bas. Est-ce qu'on ne peut pas trouver chez Feyenoord un même cas d'harcèlement sexuel pour revenir au top aux Pays-Bas? C'est ça, c'est un peu le blague qui tournait, parce que tout le monde sait que c'était vraiment triste, l'affaire. C'était horrible parce qu'ils n'ont pas touché bien. Et quand c'est explosé, il n'y avait pas aucune raison de tenir Overmars. Il a dépassé toutes les frontières possibles. Et ça, c'est un peu le vrai problème. Parce que le grand équipe, ouais, il faut signaler ça aussi, d'Ajax maintenant, c'est l'équipe féminin qui a battu même Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Alors, il faut dire qu'à l'interne d'Ajax, à l'intérieur d'Ajax, l'équipe féminine est très importante. Alors, harcèlement sexuel, on ne peut plus parler de ça. C'est vraiment, on ne peut pas mettre en dessous des autres affaires. Et ça a éclaté vraiment de tous les côtés. Qui travaillent chez Ajax ont eu des problèmes pour ça, pour ignorer. Alors, maintenant que c'est explosé, Overmars est suspendu aux Pays-Bas pour encore un an, mais il travaille à Anvers avec de bons résultats.
Oui.
C'est ça l'ironie.
Alors, c'est vrai que, Johan, on peut se dire que l'Ajax a visiblement galéré à remplacer Overmars. Cela dit, et on va s'y intéresser, on va rentrer dans le détail là, dans quelques secondes, sous Overmars, tout n'était pas parfait, sportivement parlant, et dans sa politique, sa gestion sportive, pour autant. Hein.
Non, bien sûr, il y a des dérives qui étaient déjà entamées avec Overmars. Je pense notamment au recours très important à certains agents et aux commissions. Je pense aussi à l'abandon de certains principes de mis en place par le plan Cruyff, le fameux plan Cruyff au début des années 2010, lancé par Johan Cruyff lors d'une tribune de Telegraph, justement, dont je parlais tout à l'heure, sur le renouvellement de certains éducateurs, sur la manière de former les jeunes joueurs. Il ne faut pas oublier que, quand on parle de l'âge d'or récent de l'Ajax, hein, je remonte pas très très loin, mais sur l'époque Ten Hag, notamment la saison 2000... 2018-2019, où ils font demi-finale de Ligue des Champions. Beaucoup des jeunes joueurs, tout à l'heure, on parlait des cadres comme Tadic, Blind, Lasse Schöne, etc. Mais il y avait beaucoup de jeunes. Et beaucoup de ces jeunes étaient issus du plan Cruyff, de la mise en place de cette formation d'excellence, enfin, mise en place plutôt retour à la formation d'excellence qui avait été un petit peu oubliée dans les années 2000. Développement individuel planifié des joueurs, les fameux De Ligt, Mazraoui, Van de Beek sont des joueurs qui ont été issus du plan Cruyff et qui ont réussi à progresser, à s'améliorer individuellement, à faire bénéficier à l'Ajax ensuite au titre collectif. Donc, il y avait déjà des choses quand Wim Jonk, notamment, quitte la tête de l'Académie de l'Ajax, ça doit être en 2015, je crois, ou 2016, je ne me rappelle plus très bien, qui était issu du plan Cruyff. C'est parce qu'il y a des choses déjà qui ne vont plus et que Overmars ne suit plus les recommandations du fameux plan Cruyff. Il ne faut pas oublier, par exemple, que même si on parle des joueurs plus récents, hein, Jurjen Timber, il est issu de Feyenoord et c'est Jasper Van Leuven, Ruben Jonkid, Wim Jonk qui vont le chercher à Feyenoord et qui le font venir à l'Ajax avec son frère Quinton qui est maintenant est retourné ensuite au Feyenoord. Donc Noah Lang, c'est pareil, il passe du Feyenoord à l'Ajax sous ces gens-là. Donc c'est des gens qui étaient très doués pour identifier les bons talents, y compris dans la région, même quitte à casser les fameux accords où entre Ajax, Feyenoord, AZ et PSV, on ne se pique pas les jeunes joueurs, eux, ils n'en avaient un peu rien à faire de ça. Ils estimaient que si on proposait à un jeune gamin un meilleur plan, bah, il n'y avait pas d'accord qui tienne entre les équipes et que c'était aux jeunes joueurs de choisir. Et donc, sous Overmars, il y avait déjà quand même quelques abandons de principe liés à l'ADN de l'Ajax. Ouais.
On va revenir sur la formation dans un instant. Juste avant, petit détail sur la politique sportive et économique de l'Ajax de ces dernières années. Depuis 5 ans, l'Ajax a dégagé près de 750 millions d'euros en vente de joueurs. C'est 5 fois plus que l'OM, son adversaire de jeudi en Europa League, sur la même période. Il a réinvesti près de la moitié en recrues. Mais moi, Jurjen, la question que j'ai envie de poser, c'est il est passé où le surplus d'argent là? Parce qu'il y a quand même il y a 400 millions d'euros. Ils en ont fait quoi, les dirigeants de l'Ajax?
Mais il y a tant d'argent en caisse, hein, ça c'est sûr et certain. Mais comme disait Cruyff, un sac d'argent ne fait
pas des matchs.
Ouais. Alors le public, alors le public veut que peut-être c'est pas investi dans des talents comme acheter Mislintat, mais des stars on peut les prendre. Il faut dire que la relance d'Ajax c'est venu aussi avec de bons transferts d'Overmars, avec Tadic et Blind qui venaient de Premier League chez Ajax. Hein. C'est aussi ça et un peu. Ils ont essayé de reprendre Ziyech de Chelsea, mais Ziyech a préféré d'aller à Galatasaray. Alors, il y a la possibilité de recruter des joueurs, mais c'est aussi vrai qu'Ajax veut faire un peu plus la politique hollandaise, ou au moins de prendre des joueurs de la formation. Et ça, on touche un autre sujet. Mais il y a beaucoup d'argent encore chez Ajax. Ils peuvent aussi perdre un an comme ça, mais pas deux ou trois.
Ouais. C'est quoi finalement le modèle de l'Ajax, Johan? C'est le trading? Alors comme beaucoup de clubs, hein, c'est pas forcément une critique, hein, mais...
Non, mais en fait, c'est marrant parce que trading, c'est une parole qui est venue assez récemment, ça fait quelques années, etc.
Alors que les clubs en font depuis toujours, en vrai, hein, mais bon.
Mais voilà, je veux dire, des clubs formateurs qui vendent leurs meilleurs joueurs parce qu'ils vont... Puis ils les vendent pas simplement parce que eux le veulent, entre guillemets, c'est aussi le joueur qui veut aller dans un meilleur championnat, goûter à des compétitions plus importantes, gagner des titres plus importants, etc. Je veux dire... Le trading, on ne parlait pas de trading pour l'Ajax à l'époque qui perdait petit à petit tous ses meilleurs joueurs. Overmars était parti, Van der Sar a fini par partir, Davids est parti, Patrick Kluivert est parti, Litmanen est parti, Bergkamp est parti. Enfin, je veux dire, on ne parlait pas de trading à l'époque. Donc, tout à l'heure, Jurjen parlait de Auxerre lié à ce fameux match. Souvenez-vous aussi, à Auxerre, on ne parlait pas de trading, on disait juste formation. Faire développer les champions et ensuite les vendre. Donc cette parole trading, elle est un peu... elle est presque inexacte dans le sens où ça a toujours existé, le fait de bien former, d'en profiter pendant quelques saisons et ensuite de vendre quand tu es des clubs de championnat hors top 4 européen. Donc oui, cette logique-là, elle est toujours en place. Après, il y a une chose, c'est que quand je parlais tout à l'heure de planification sportive... vendre les joueurs, tu sais que ça va arriver, mais il faut mieux anticiper les achats, il faut mieux travailler sur qui tu recrutes. Enfin, moi, un des exemples, je parlais d'Ocampos tout à l'heure et Jurjen parlait de Guy, le Danois. Mais par exemple, on parlait de Brian Broby. Cet attaquant-là, il est formé à l'Ajax. Il fait toutes les catégories de jeunes, il fait les catégories de jeunes des Pays-Bas. Et en fait, au moment où il doit faire la transition avec l'équipe première, l'Ajax recrute plusieurs numéros 9. Ils lui mettent donc dans les jambes beaucoup de concurrence. Donc Broby, il voit ça, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, mais il n'y a pas de place pour moi à l'Ajax. Donc, en plus, avec un agent très compliqué comme Mino Raiola à l'époque, qu'est-ce qu'il se dit ? Bah, je vais aller voir ailleurs. Donc il va à Leipzig et ils le perdent gratuitement à l'Ajax. Sauf que l'Ajax, derrière, ils finissent par vendre à l'heure, Sébastien à l'heure, etc. Ils se disent, mais on a besoin d'un numéro 9. Ah, mais on avait Broby avant. Ah bah on va aller le rechercher. Bah oui, mais c'est plus de 15 millions d'euros. Oui. Bah tant pis, on va donner les 15 millions d'euros. Bon là, quand je parle de planification sportive, c'est tout ça. Et même, effectivement, la recrue de... Là, c'est pas un problème de dirigeant, parce que Bergwijn, tout le monde était d'accord pour dire que c'était une bonne idée, même si le transfert était très cher, et le salaire aussi d'ailleurs. Mais Bergwijn, depuis qu'il est arrivé, il a fait 10 bons matchs, à peine. Et c'est trop insuffisant pour le moment. Et puis, quand on parle de choses plus ou moins correctes, faites correctement, je vais y arriver. Lorenzo Luca, qui vient l'année dernière, numéro 9. Bon, c'est pourquoi il est venu, personne ne vous le dira. Mais regardez quel agent il avait, oui, ce garçon. Ouais. Il avait le même agent qu'Alfred Schroeder.
Ouais.
Voilà, il faut le dire, c'est le même agent que l'entraîneur. Et je suis désolé, mais Lorenzo Luca, il n'a rien apporté à l'équipe première, et je vais même aller plus loin, il n'a rien apporté à la Young Ajax. Quand il a joué avec donc Young Ajax en deuxième division néerlandaise, donc c'est les U21, il était même pas titulaire indiscutable chez les U21. Et quand il jouait, on voyait pas une immense classe. Donc ce jour-là, tu as fait un prêt payant à 1 million d'euros. Il y avait une option d'achat, heureusement qu'ils ne l'ont pas levé, je crois qu'il était à 8 ou 9 millions d'euros.
Ouais.
Mais finalement, quand il a joué avec Young Ajax, il a même pris la place d'un numéro 9 qui devait être issu des équipes de jeunes de l'Ajax, donc il y a plein de choses qui ne vont pas, effectivement.
Mais alors justement, parce que là on se rend compte, hein, depuis le début du podcast, hein, de ce Galaxy, on comprend qu'il y a une crise globale, sportive, alors pas économique, puisqu'il y a de l'argent dans les caisses, mais il y a un problème de direction, de gouvernance, finalement. Edwin van der Sal, qui était DG du club, a quitté ses fonctions en fin de saison dernière, après 7 ans de service. On a envie de se demander, finalement, Yorian, qui commande, qui dirige l'Ajax ? Et là aussi, c'est très complexe parce qu'il y a un conseil d'administration, il y a un conseil de surveillance, il va y avoir un nouveau DG qui va arriver, mais en ce moment, il est à la Z et il y a une clause de non-concurrence, il ne pourra venir que dans un an. Enfin, c'est quand même très compliqué ce qui se passe au niveau de la gouvernance à l'Ajax ces derniers temps-là.
Oui, non, c'est très compliqué, même pour un Hollandais d'expliquer. Mais il y a 200 personnes
qui sont inclus. Si tu l'expliques en néerlandais, ça va être encore plus compliqué en plus, hein, mais...
Ouais, mais disons que maintenant, pour faire le plus simple, que c'est Michael Van Praag avec Louis van Gaal derrière qui va relancer l'organigramme d'Ajax. Il y a Danny Blind qui va faire les affaires techniques, qui peut-être peut remplacer. Peut remplacer Van der Sar, mais il y a encore des choses à faire administrativement dans l'interne du club. Mais je pense que ça va finir comme ça. Et ils vont chercher ces trois-là avec un groupe des anciens joueurs d'Ajax, avec le scouting qui est totalement a été ignoré par Mislintat, mais il y a aussi un groupe de scouting d'anciens joueurs d'Ajax. Qui vont trouver l'entraîneur, peut-être étranger, qui va relancer Ajax dans les prochaines années. C'est un peu l'idée derrière. Alors, qui est maintenant l'homme le plus important, pour dire, interne dans Ajax, hors de l'entraîneur John Van Schip? C'est surtout Michael Van Praag, qui a 78 ans,
oui.
Pour dire... qu'aux Pays-Bas, c'est vraiment vieux. Hein? Ce n'est pas comme le président en Amérique ou en Italie. Mais c'est lui qui va sauver l'équipe et surtout toute la gouvernance chez Ajax. Mais il a pris cette responsabilité et ça, c'est vraiment intéressant de suivre. Et je pense que c'est un peu ça. Et à refaire aussi, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes aussi sur... la complexité de la formation d'Ajax qui a eu de moindres ou de baissement de l'effectif de l'équipe jeune qui était aussi dernier du championnat il y a un mois. Alors, il joue dans la deuxième division néerlandaise. C'est ça pour dire que l'équipe d'Ajax jeune doit aussi avoir des impulses. Et il y a toute cette organisation qu'il faut améliorer en 6 mois et sous la gouvernance de Van Praagh. Je pense que ce serait là.
Et bien, passe décisive de Jurjan, puisque quand on pense à Ajax, on pense aussi à sa formation, dont l'une des expressions les plus visibles est le Young Ajax, l'équipe B qui évolue en D2 et qui, elle aussi, galère.
Die goed wegdraait, zat donderdagavond nog op de bank in Brighton met het eerste. Dan ziet zijn inzet gered worden door Bukker. Krasniqi probeert hem voor te krijgen. En dan met de buitenkant. Knappe goal van Enrique Peña Zauner.
Voilà, extrait hein, de la victoire de Young Ajax sur Willem II, c'était début novembre. C'est l'un des deux seuls succès de l'équipe hein, depuis le début de saison en D2 néerlandaise. Johan, je sais que tu suis attentivement à cette équipe de Young Ajax. On en parlait en préparant ce podcast, tu me disais que leur niveau de jeu était assez flippant eux aussi. Hein.
Ouais, c'est... Enfin, alors, il faut toujours se méfier des résultats parce que finalement, c'est pas forcément
c'est pas ce qu'on leur demande, ouais.
Le plus. Ouais. Voilà, exactement. Mais quand même, quand tu es dernier, comme le disait Jurjan, ça veut dire aussi quelque chose. Moi, je les ai vus l'année dernière et... Donc j'avais été à De Toekomst, je les ai vus contre l'une des pires équipes de néerlandaises, qui est Helmond Sport. C'est vraiment une équipe, mais pas bonne du tout, avec des grands gaillards, très costauds, mais il n'y a pas grand-chose. Et j'avais trouvé le niveau absolument catastrophique. J'en ai vu d'autres à la télé depuis, et le niveau n'est pas génial vraiment, pour le coup. Alors il y a... Évidemment, il y a des joueurs qui aujourd'hui sont en équipe première, comme Linton, je l'évoquais tout à l'heure, le jeune Islandais, comme Atto, qui s'impose aussi petit à petit. Sylvano Voss, qui est arrivé un petit peu aussi cette saison, qui est un joueur, un milieu de terrain assez prometteur. Il y a pas mal de clubs, grands clubs européens, qui surveillent un petit peu son cas, et notamment sa situation contractuelle. Je pense que Gabriel Misoui est pas trop mal en termes d'ailier, mais c'est un tout petit gabarit. Est-ce que à l'échelle des adultes, même si dans deuxième division c'est aussi des adultes, mais le niveau est évidemment plus faible qu'en première division et notamment l'intensité, etc. Donc il y a quelques bons joueurs. Est-ce qu'il y a de gros talents comme on avait vu venir à un Matthijs de Ligt par exemple? Non. Mais il y a de quoi remplir un petit peu cette équipe première. Après, ce sera aussi à l'équipe première de continuer le développement des joueurs et faire en sorte qu'ils progressent. Parce que parfois, vous avez des joueurs qui arrivent un petit peu sur la pointe des pieds et qui se révèlent totalement en équipe première. Je pense à Justin Kluivert, par exemple. Enfin, dans les équipes de jeunes, personne ne vous disait que Justin Kluivert était un crack. Et avec l'équipe première, il est devenu un très bon joueur. Ensuite, par la suite, ça a été plus compliqué. Mais il a su répondre aux attentes de l'équipe première en devenir un titulaire indiscutable, être performant, etc. Donc, c'est aussi au travail de l'entraîneur, de toute l'organisation, hein, de faire en sorte que quand ils arrivent en équipe première, ce soit pas une finalité, mais qu'ils continuent à progresser.
Oui, Jurjan, c'est vrai qu'on a envie de se demander, elle est devenue quoi, hein, la fameuse formation de l'Ajax? C'est quoi? C'est un trou générationnel ou c'est un problème politique, finalement, du club?
Peut-être tous les deux, mais c'est très difficile pour moi de critiquer vraiment la formation, mais la seule chose que je sais, des amis que j'ai chez Ajax, qu'ils ont dit, le pire que s'est passé dans les dernières 3 années, le vrai club des jeunes dans cette région hollandaise, c'est AZ Alkmaar, qui a gagné même la Youth League l'année dernière avec leur équipe jeune. Et on a raté les talents de la région parce que maintenant ils peuvent choisir entre AZ et Ajax. Et normalement, c'était quand on venait de Hilversum, d'Haarlem, même d'Alkmaar, on allait toujours dans une direction. Et c'était Amsterdam, c'était pour jouer chez Ajax. Même les frères de Bourg, ils viennent d'une ville de 10 km d'Alkmaar, pour dire. Hein. Alors, ça a changé vraiment. Et bien sûr, il y a aussi des talents internationaux, mais on se demande, et ça c'était une polémique il y a 2 semaines aux Pays-Bas, sur Brobbey qui avait raté beaucoup d'occasions dans le match PSV Ajax, et Van Basten, et après lui aussi Koeman, qui est bien sûr le sélectionneur des Pays-Bas, on demandait qu'est-ce qu'il a appris durant la formation, qui ne sait pas mettre un but quand il est seul sur un gardien. Ça, c'était la leçon 2 ou 3 quand on était jeune de 12 ans chez Ajax. Et lui, il ne sait pas faire quelque chose dans cette situation. C'est horrible de voir. Et c'est une critique de Van Basten qui a touché un peu tous les gens pour dire, mais qu'est-ce que vous faites dans la formation d'Ajax pour dire que ce n'est pas tellement positif. Mais peut-être Johan, qui l'a bien meilleur suivi que moi, c'est un peu ça, meilleur.
Ouais, non, mais c'est vrai. Et...
T'as compris que Yurian, il kiffe ton prénom. Hein, donc
Je sais que j'ai un prénom important aux
biblique.
Pays-Bas.
Oui, non, biblique, dis-le. Aux Pays-Bas, c'est biblique, hein, Yurian.
Biblique, c'est ouais. Vrai. C'est vrai. Non, oui. Non, mais il a raison, Yurian. Et il y a aussi un fait, c'est que, et ça s'était accentué aussi sous Overmars, le recrutement de jeunes talents étrangers. Et peut-être que c'est ce qui a fait aussi qu'ils ont délaissé le talent qu'ils avaient sous les yeux. De jeunes qui ensuite ont préféré aller à Alkmaar, où il y avait des éducateurs. Il y a eu, en fait, on a le sentiment qu'il y a eu un espèce de transfert d'idées et de compétences entre Amsterdam et Alkmaar sur la formation, où Alkmaar a repris des idées de Toekomst, du centre de formation de l'Ajax, sur mais plein de petites choses, des fois, sur comment améliorer la technique, comment on utilise des surfaces différentes pour pas que les joueurs, les jeunes gamins, taclent au sol, mais qu'ils s'habituent à défendre debout, les habituer à tous les aléas d'une rencontre, le travail cognitif, la vision périphérique. Enfin, il y a beaucoup de choses en alliant la technologie aussi, la 3D, la réalité virtuelle. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place à AZ qui a pris un peu le lead, clairement, aux Pays-Bas sur la formation des jeunes joueurs. Et aujourd'hui, vous le savez, dans l'After, moi, ça fait 2 ans que je dis que le meilleur centre de formation, ce n'est plus l'Ajax, mais c'est la Z. Parce que les talents sortent, parce qu'ils sont clairement à la page, parce qu'ils sont moins dans les jeux d'agents, dans les jeux de recruter des joueurs internationaux. C'est vraiment deux philosophies différentes, mais ça ne veut pas dire que l'Ajax n'est pas capable de retrouver ce qu'il faisait avant. Et c'est en ça où Van Praar et Van Gaal vont avoir un rôle très important. C'est qu'ils vont devoir aussi réorganiser, restructurer, redynamiser, amener de la technologie, amener les bonnes personnes, amener les bons principes, amener les bons systèmes au sein de l'académie pour qu'elle retrouve l'excellence. Parce que moi, je suis désolé... Il y a des joueurs qui peuvent encore émerger, il n'y a aucun problème. Il y en a d'autres qui vont émerger, c'est sûr. Mais parce qu'il y a toujours une forme d'exigence à l'Ajax, ça c'est clair. Ouais. Mais le problème de l'Ajax aujourd'hui, c'est qu'elle doit revenir à l'excellence. Et elle ne peut plus se contenter de l'exigence.
En tout cas, ça donne envie de faire un podcast Galaxy bientôt sur la Z. Hein. Va savoir, on a compris le message. Hein. Ce podcast touche à sa fin. Manquez pas un duel entre l'OM et l'Ajax en Europa League jeudi. Ce sera sur RMC. On rappelle, l'Ajax qui doit s'imposer pour ne pas être éliminé. Marseille qui doit faire un résultat pour se qualifier en 8e de finale. Merci Yurian Van Wessem, correspondant néerlandais basé à Monaco. Merci d'avoir été avec nous, Yurian.
Oui, c'est un plaisir.
Tu reviens quand tu veux.
Allez, l'OM aussi pour cette Ligue des Champions, hein, pour revenir ça. Mais
merci.
Pas. Mais Ligue Europa, c'est bien aussi pour eux.
C'est pas mal. Merci beaucoup, Yurian. Puis je t'avoue que le club français, c'est pas avec notre palmarès qu'on va faire la fine bouche. Hein. Europa League, Conference League, on prend tout. Hein. Merci, Johan Crochet, d'avoir été avec nous. Qu'on retrouve dans l'After, bien sûr.
Merci, Yurian.
Merci, Jimmy Brown à la production. Merci, Sylvain Kemener à la réalisation. On se quitte avec Three Little Birds, ce tube de Bob Marley, qui est devenu l'hymne des supporters de l'Ajax. Bisous. Prenez soin.
After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.